Avec la revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Le gouvernement péruvien a décrété ce mercredi 3 jours de deuil national.
Et c'est un deuil ambigu qui fait suite à la mort de l'ex-président du Pérou, Alan Garcia. Ce sociodémocrate avait dirigé le pays de 1985 à 90, puis de 2006 à 2011. Et hier matin, il s'est suicidé. Il s'est tiré une balle dans la tête chez lui, alors que des agents de police venaient lui signifier son placement en détention provisoire. C'est le quotidien El Comercio qui nous raconte les derniers gestes du président. Les policiers étaient arrivés chez lui aux aurores. Il leur a expliqué qu'il allait dans son bureau pour téléphoner à son avocat. Il a fermé la porte et quelques secondes plus tard, un coup de feu a retenti. Alan Garcia, dont le quotidien Gestión de Lima nous dit qu'il a mené une vie politique pleine de drames, disparaît sur une ultime tragédie. Il a mis fin à ses jours parce qu'il était visé par l'enquête qui secoue toute la classe politique latino-américaine, le scandale de corruption Odebrecht, du nom de cette entreprise de BTP brésilienne accusée par la justice d'avoir distribué pendant plus d'une décennie environ 800 millions de dollars de pots de vin à des dirigeants de tout le continent et ce, pour favoriser ses affaires. El Comercio nous redonne l'ampleur absolument tentaculaire de ce scandale qui, il faut bien le dire, ne mouillait pas qu'Alan Garcia. En fait, rien qu'au Pérou, les 4 derniers chefs de l'État sont concernés par ces soupçons de corruption et de trafic d'influence. Alan Garcia se savait cerné, mais dans la dernière interview qu'il a donnée pas plus tard que mardi au RPP, les Radio Programas des Pérou, ce colosse d'un mètre 90 paraissait toujours aussi déterminé à se défendre.
Muchas veces he escuchado eso y nunca se ha cumplido.
Au journaliste qui lui demande s'il a conscience qu'il risque d'être arrêté, que ça pourrait être, et oui, sa dernière interview, l'ex-président répond qu'il a déjà entendu ça plusieurs fois, que ça ne s'est jamais réalisé et que d'abord dans ce dossier bien précis, aucun document, aucun indice, aucune dénonciation, dit-il, ne me mentionne ni me relie à rien.
Et forcément, la presse péruvienne note combien cet aplomb contraste avec le geste commis 24 heures plus tard.
Alors bien sûr, aucun quotidien à Lima ne tire de conclusion de ce suicide, mais dans El Correo, on lit que cette mort laisse une grande dette au pays entier. C'est le message qu'a fait publier l'association des séquestrés, détenus et disparus du Pérou, laquelle, après avoir présenté ses condoléances à la famille du défunt, évoque la lourde dette de vérité donc que laisse Alan Garcia en préférant mourir plutôt que de répondre aux accusations. Mais je vous parlais au début de cette revue de presse de l'ambiguïté des Péruviens face à cette mort. Il faut donc évoquer les hommages orchestrés par le parti de gauche sociodémocrate LAPRA. Cette nuit, on a pu suivre en direct sur le site du journal Gestión le transfert du cercueil d'Alan Garcia vers la maison du peuple, le siège du parti APRA, avec bousculade et chant à la gloire du défunt. Pour ses anciens camarades, l'ex-président restera comme une victime de la persécution fasciste déguisée en lutte contre la corruption. En se suicidant, il a commis un acte d'honneur, déclare même dans El Comercio un député de son parti.
Et puis en Indonésie, c'est un sentiment de soulagement qui traverse les éditoriaux au lendemain de l'élection présidentielle.
C'est dire si elle était redoutée, hein, cette élection qui mobilisait près de 200 millions d'électeurs sur une seule journée dans le pays musulman le plus peuplé au monde. Alors, félicitations Indonésie, titre le Jakarta Post qui congratule en particulier les électeurs, lesquels ont massivement joué le jeu démocratique. La participation semble avoisiner les 80%. Ils ont voté dans le calme et surtout sans céder à la tentation de la division nationale. Ça, c'est le point sur lequel insiste le Jakarta Globe, qui se montre surtout soulagé de ne pas avoir vu son pays basculer dans les tensions identitaires, religieuses qui ont pourtant été largement alimentées par les candidats durant la campagne. Le fait que tout se soit bien passé hier, en passant je précise que c'est le président sortant, Joko Widodo, qui semble l'emporter, même si les résultats définitifs ne seront pas connus avant le mois prochain. Le bon déroulement donc du vote d'hier prouve toujours, selon l'édito du Jakarta Globe, que les peurs de voir le pays se déchirer entre islamistes fondamentalistes et partisans de la tolérance étaient pour le moins exagérées. Cette lecture bien trop simpliste, manichéenne, entre bons et mauvais islamistes, mais aussi entre chiites indonésiens qui représentent 1% de la population et sunnites indonésiens, ce n'était là que de l'agitation politique. Une grille d'analyse, nous dit-on, calquée depuis l'étranger, mais qui, selon le Jakarta Globe, ne correspond pas à la réalité de la démocratie indonésienne, laquelle donnerait aujourd'hui des leçons au monde, à croire ce écrit Kritika Varagur dans le journal spécialisé Foreign Policy. Certes, la religion musulmane a été au cœur de cette campagne présidentielle en Indonésie. On peut le regretter ou s'en inquiéter, mais ça fait partie du jeu politique. Et c'est d'autant plus important de le remarquer qu'à la fin, c'est le plus modéré, cette fois, qui l'a emporté.
Et puis enfin, un avis de tempête sur les ribs, sur le marché mondial de la viande de porc.
Oui, et là, c'est le South China Morning Post qui m'a alerté sur cette épidémie de fièvre porcine qui s'attaque aux élevages donc en Chine. Selon les analystes financiers de Rabobank, 200 millions de cochons chinois devraient succomber à ce virus, entre ceux qui mourront de la maladie et ceux qui devront être abattus par mesure de précaution. 200 millions, c'est trois fois plus que le nombre total de porcs élevés aux États-Unis. Autant dire que la pénurie qui va se développer au cours de cette année va être colossale. Il n'y a tout simplement pas assez de cochons dans le monde entier pour combler les besoins à venir de la Chine, résume le South China Morning Post. Et l'affaire est suffisamment grave pour que le Wall Street Journal s'en inquiète également, signalant que les prix de la viande de porc en Chine pourraient s'envoler de plus de 70% dans les mois qui viennent, que la déflagration va déstabiliser toute l'économie porcine mondiale. Déjà, les acheteurs chinois se tournent massivement vers les élevages américains, multipliant les importations. Les importations, par contre, de soja américain sont en baisse car il y a moins de bêtes à nourrir en Chine. Et tout cela, forcément, vient parasiter les négociations commerciales que l'on sait déjà très tendues entre Pékin et Washington. En attendant, le prix du porc donc augmente déjà en flèche dans les boucheries chinoises. Certains analystes cités par le Wall Street Journal prédisent que les consommateurs vont être obligés de se tourner vers d'autres viandes pour apaiser leur insatiable besoin de protéines. Oui, parce que par contre, personne dans les articles que j'ai lus sur le sujet ne semble croire que les Chinois vont en profiter pour tous devenir véganes.
Oui, puis d'ailleurs, les barbecues véganes, vous savez, c'est un peu compliqué quand même, Camille Magnard.